Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux sur France Inter.
Bonjour Daniel Pénac.
Bonjour.
Votre dernier livre a pour titre « Mon frère » qui vient de paraître chez Gallimard. Votre frère Bernard, de 5 ans, votre aîné, le préféré de la famille, dites-vous. Ce frère que vous avez aimé et que vous avez perdu, un frère comme une énigme. Qu'y a-t-il de si énigmatique dans vos relations avec votre frère au point d'en faire un livre ?
C'était l'amour absolu entre nous. On s'entendait extraordinairement bien. Extraordinairement bien. Et en même temps, je crois que dans notre vie entière, on ne s'est pas fait 5 confidences. On était extrêmement discret. Il était extrêmement discret. Et cette discrétion m'a... Bon, pendant 5 ou 6 ans, j'ai joué le Bartleby de Melville au théâtre. Et j'ai eu le désir de monter le Bartleby de Melville. On dira, on résumera si vous voulez ce qu'est cette pièce.
La nouvelle de Herman Melville, écrite en 1850 quelque chose.
Oui. Il y a une familiarité, un cousinage entre Bernard, donc mon frère, et ce Bartleby. Si on veut résumer Bartleby très vite...
C'est un clerc de notaire.
Oui, qui donc fait de la copie, c'était les photocopieuses du 19e siècle, hein, c'est clerc de notaire.
C'est le scribe.
C'est le scribe, il fait de la copie, et au moment où on lui demande de collationner sa copie, c'est-à-dire de corriger sa copie avec ses collègues, les autres scribes du bureau, il répond... Je préférerais pas. I would prefer not to.
Je préférerais ne pas.
Ce que le traducteur, Léris, traduit par je préférerais pas, qui est plus oral comme ça. Eh bien, mon frère était quelqu'un qui, dans énormément de domaines, ne préférait pas. Et entre autres, sa devise, il me disait régulièrement, on va pas ajouter à l'entropie.
C'est-à-dire le désordre.
Au désordre, à l'usure des choses, etc. Et à cause de cette phrase, par exemple, je n'ai jamais acheté une voiture neuve de ma vie. J'ai toujours roulé dans de l'occasion
pour ne pas ajouter au désordre.
À l'entropie. Et donc, on avait entre nous un rapport où aussi, dans le domaine de la confidence, on n'ajoutait pas à l'entropie. Chacun respectait beaucoup l'intimité de l'autre. Mais... on était très, très, très affectueux l'un avec l'autre. Alors, j'étais très sensible à ce que je devinais de malheur dans sa vie.
Hein. Le malheur, on va en parler, le malheur de votre frère, qui les a cumulés d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie, on va en parler. Mais il faut peut-être préciser que votre frère Bernard, à qui vous consacrez ce livre, il a été votre éducateur. C'est lui qui vous a... élevé, initié jusqu'à devenir écrivain.
Oui, et on a partagé la même chambre de 0 à 11 ans. Et quand deux frères partagent la même chambre de 0 à 11 ans, où ils s'entretuent, où ils se font du bien. Et en l'occurrence, il avait 5 ans de plus que moi. Et en effet, il m'a tout appris, quoi. Il m'a appris à parler. Je pense qu'il m'a appris à raisonner aussi, à dédramatiser. Son humour dédramatisait absolument tout. Il m'a appris à lire, et en l'occurrence les livres qu'il lisait lui et qu'il aimait. Et comme il m'a appris à lire, il m'a appris à écrire. Donc, de fait, j'ai la sensation de lui devoir tout. Et en particulier, le fait d'avoir ensuite passé ma vie à écrire. Parce que les écrivains français écrivent parce qu'ils ont lu. C'est vraiment le propre de l'écriture occidentale et de l'écriture française en particulier. Là où les écrivains américains écrivent parce qu'ils ont vécu beaucoup. Hein. Nous, c'est notre vieille culture et nos lectures de toujours qui nous amènent assez naturellement à l'écriture, ceux d'entre nous qui écrivent.
Alors, vous l'écrivez, hein, c'est un livre pour savoir ce que vous avez perdu avec la disparition de votre frère. Avez-vous trouvé la réponse ?
Oui, quand on perd quelqu'un comme ça, qu'on aime absolument, on est très surpris après la mort de n'avoir presque aucun souvenir de lui. On n'a que des sensations qui sont des sensations manquantes, donc qui creusent un deuil terrible. Il m'a fallu attendre très longtemps, le 12 juillet de cette année, pour qu'un matin je me réveille et que je me dise, bon, je vais écrire ce livre. Et je l'ai eu avec sa forme, c'est-à-dire l'entrelac entre les chapitres qui concernent mon frère et ceux qui concernent Bartleby. Et pour répondre à votre question, l'énigme de sa présence sur Terre, de ce qu'il aimait vraiment, de sa raison d'être heureux malgré tout, reste assez obscur pour moi, parce qu'il était très discret, très discret. Tout ce qui est ressorti au jour, c'est la complicité, c'est la rigolade. On a énormément ri ensemble, il y avait beaucoup
Vous dites que vous ne vous êtes jamais disputé de votre vie, même pas gamin.
Oui, peu avant sa mort, on a fait une promenade avec les chiens dans la garrigue, et j'ai dit, mais dis donc, est-ce que tu as le souvenir d'une engueulade entre nous si peu que ce soit, si petite, y compris dans l'enfance. Et non, nous ne nous sommes jamais disputés, mais nous avions mis au point des rituels de fausse engueulade.
C'est-à-dire C'est quoi une fausse engueulade entre frères?
Par exemple, des scènes qui se répétaient toujours les mêmes, où je faisais semblant de gueuler et où il faisait semblant de faire de la provoque pour créer cette réaction. Et c'était un jeu. Exemple de scène. Les parents recevaient. Ils voulaient pas les gosses à table avec eux, donc on allait à la cuisine et Bernard était chargé de me cuire un steak. Alors il cuisait le steak et ensuite il partageait en deux parts scandaleusement inégales, une gigantesque qu'il laissait tomber de très haut dans son assiette, ça faisait platch comme ça, et une petite qu'il me donnait. Et là, le jeu, c'était que je faisais semblant de gueuler, je disais « Salaud, t'as pris la plus grande, je le dirai à maman !» Et lui répondait « Ben, si tu t'étais servi, laquelle aurais-tu prise ? Ben, la petite, ben tu l'as, de quoi tu te plains ?» Et voilà, et c'était un rituel, c'est ça, absolument sans ça. Et nous avions comme ça quantité de rituels de fausses engueulades.
Aussi des points de vue politiques différents, sans
engueulade. Oui, on ne votait pas du même côté.
Votre frère était, semble-t-il, un taiseux, mais il avait le sens de la formule, par exemple.
Par exemple, on va un jour, on boit l'apéro chez une de nos tantes, et au moment de partir, je dis, bon, et bon, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on y aille, on va manger chez les Rollins. C'était des copains qui habitaient à côté. Ma tante me dit, mais non, voyons, vous n'allez pas manger, vous allez dîner chez les Rollins. Et Bernard dit, oui, bon, enfin, tu connais Daniel, il en profitera certainement pour manger quelque chose. Voilà, c'était ce genre.
Une famille bienveillante dans laquelle les échanges étaient peut-être trop souvent, enfin, trop sobres.
Parce que c'était une famille du 19e siècle, hein. C'était tout ça. Mon père était né en 1901, ma mère en 1906. Le 20e siècle commence en 18, après la guerre. Et c'était des gens chez qui on faisait pas de psychologie. On ne faisait pas non plus de confidences. Donc on parlait, par exemple, entre nous par littérature interposée, les bouquins qu'on avait lus, on se faisait des commentaires, des livres lus, et très peu de d'épanchements, très peu.
Daniel Pénac, votre dernier livre a pour titre « Mon frère », c'est aux éditions Gallimard. On va poursuivre cette interview dans quelques minutes après la revue de presse. Il y aura aussi les questions de Patricia Martin. On va parler de l'école, du rapport au livre aussi. Et vos questions, à vous les auditeurs, eh bien vous nous appelez. Le standard est ouvert, c'est au 01 45 24 7000. A tout de suite.
France Inter, le 6-9 du week-end. Éric Delvaux.
Et questions ce matin, vos questions notamment ce matin à Daniel Pénac. C'est au 01 45 24 7000. Votre livre, Daniel Pénac, a pour titre Mon frère. Le livre vient de paraître chez Gallimard. Daniel Pénac, d'abord une première question de Patricia Martin.
Oui, un son. C'était le 8 juin 2017. L'appel du 8 juin 2017 au Théâtre de la Criée à Marseille, vous y étiez, Daniel Pénac, c'était
oui,
le
oui,
bénéfice de SOS Méditerranée.
Et après ce que j'ai entendu d'Orban, je suis tout à fait prêt à le relancer aujourd'hui. C'est un appel De soutien des migrants qui se noient en Méditerranée.
L'Aquarius, par exemple, dont on a beaucoup parlé,
voilà,
c'est eux. Hein,
sans
c'est
de la, que l'Europe s'en émeuve, sans qu'on fasse absolument rien. L'Aquarius, qui est un bateau qui en sauve quelques-uns, est essentiellement financé par nous. Il n'y a aucune subvention, ni européenne, ni nationale. Et alors, je profite de l'occasion pour relancer encore une fois un appel à la générosité des gens pour sauver ceux d'entre nous, je dirais, qui se noient en ce moment en Méditerranée. Il faut envoyer de l'argent à SOS Méditerranée. Il faut l'envoyer d'ailleurs très régulièrement, pas un gros paquet d'un coup, tous les mois, de façon que ce soit régulier, car chaque journée de l'Aquarius en mer, pour sauver des gens qui se noient...
Ça vaut 11 000 euros.
Coûte 11 000 euros, oui.
Et le week-end prochain, d'ailleurs, au Forum des Images, donc ce Forum des Halles à Paris, il y aura un cycle de projections et des témoignages et des débats, l'entrée est libre, hein, autour de SOS Méditerranée.
SOS Méditerranée, d'ailleurs, qui estime que les conditions de sauvetage des migrants sont devenues inacceptables dès qu'il faut négocier, c'est de plus en plus le cas, négocier le sauvetage avec les gardes-côtes libyens. Votre engagement, Daniel Pennac, on l'a entendu aussi dans une autre tribune que vous aviez co-signée contre l'emprisonnement des Catalans, me semble-t-il.
Oui, bon, l'emprisonnement des Catalans, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'il se passe en ce moment en Espagne, il y a un déni de droit manifeste qui s'exprime en public, comme ça. On emprisonne des gens sur délit d'opinion. La question n'est pas de savoir si on est d'accord avec les indépendantistes catalans ou pas. Personnellement, d'ailleurs, je ne le suis pas. C'est que ma conception de l'Europe m'interdit.
C'est un principe plus général sur
l'opinion. Mais le principe, c'est qu'ils ont parfaitement le droit d'exprimer. De dire ce qu'ils veulent, y compris d'ailleurs de faire des référendums internes à partir du moment où ils ne changent rien à la Constitution. Ils ont parfaitement le droit. Et cette espèce de turquisation de l'Espagne en ce moment est très inquiétante. Très inquiétante. D'ailleurs, de toute façon, ces montées d'autorité en Europe, un peu partout, sont très, très inquiétantes.
Vous n'êtes pas très satisfait de l'Europe en ce moment, cette Europe fondée sur les échanges commerciaux. Vous faites partie de ceux qui auraient préféré qu'elle se fonde d'abord sur des échanges culturels.
Mais oui, regardez, il n'y a aucun adolescent d'aucune banlieue ici ne peut s'identifier de quelque façon que ce soit à l'Europe, qui a complètement négligé la culture européenne. Essayez d'imaginer ce que serait l'Europe aujourd'hui si, dès les années 80, on avait par exemple échangé nos petits élèves qui seraient allés faire 2 mois en Allemagne, 2 mois en Italie, 2 mois en Espagne, 2 mois au Portugal, 1 fois par an comme ça en Angleterre, etc. Nous aurions une Europe polyglotte, nous aurions une Europe où les gosses connaîtraient la spécificité des enfants du pays d'à côté, nous aurions une Europe auquel ils pourraient s'identifier. Rien de tout cela n'a été fait.
Ça existe, mais pour les études supérieures, ça s'appelle Erasmus.
Voilà, ça existe pour Erasmus et c'est beaucoup trop tard, puisqu'Erasmus, je dirais, c'est déjà les portes du pouvoir. Hein, ce sont déjà des jeunes gens qui seront aux affaires demain. En revanche, les petits... les petits et les adolescents, eux, ont réellement besoin de s'imprégner d'une culture européenne. Et rien n'a été fait dans ce domaine.
Il n'est pas trop tard.
Et c'est un désastre. Bon, il n'est jamais trop tard pour réparer les grosses conneries, mais quand même, ça fait énormément de dégâts que l'Europe est en train de payer.
Daniel Pennac, votre livre s'appelle « Mon frère », ça paraît aux éditions Gallimard. Le point de vue, les questions des auditeurs de France Inter. Françoise est en ligne. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Quelle est votre question ou votre témoignage?
Mon témoignage, c'est que j'ai eu le plaisir de rencontrer Daniel Pennac dans le cadre de l'association « Lire et faire lire ». Et j'étais déjà lectrice, bien sûr, de lui en particulier, mais je me souviens d'un contact chaleureux et que ça faisait du bien de le rencontrer. Et j'étais loin de savoir à ce moment-là que nous avions un malheur commun. J'ai perdu moi aussi un frère le 20 octobre 58. C'est une bavure policière qui a été dissimulée à cette époque-là. Et je voulais... Voilà, je suis contente de savoir qu'on a ce point commun malheureux et qu'un frère manquant, ça se remplace jamais. Et que pour moi, c'est devenu un des plus beaux mots. Mon frère, c'est ce que je peux dire de plus beau à quelqu'un. Je m'en suis cherché beaucoup d'autres. J'ai essayé de m'en greffer d'autres. Et puis, ben non, ça se remplace pas. Un frère, ça se remplace pas.
La voilà. Fraternité, Daniel Pénac, inscrite sur les frontons de la République, c'est fait partie des plus beaux mots, comme le dit Françoise.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que dans l'ordre des pertes, perdre un enfant, c'est la tragédie totale. Perdre des parents, c'est dans l'ordre malheureux de la chronologie. Mais perdre un frère, on s'y attend pas. Moi, je m'attendais pas, et cette dame probablement non plus.
Et pourtant, il était malade et vous subodoriez l'issue
fatale. Oui, mais c'était
fatale.
Une telle compagnie constante, une telle... une telle gentillesse présente comme ça. Je m'attendais absolument pas à le perdre. Et moi aussi, d'une certaine façon, je l'ai perdu sur une bavure, puisque c'est un chirurgien maladroit.
Vous avez des mots très durs sur la clinique privée et le chirurgien qui a opéré.
C'est une clinique privée qui a tué mon frère. Voilà ce que vous écrivez.
Oui, oui. Et quand je suis allé à son chevet, la clinique affichait une petite affiche. Il y avait une petite affichette à la caisse où elle demandait aux clients de faire la publicité de ses bons résultats. Dans le même temps, le même jour, elle avait tué mon frère.
Ce frère était votre aîné, et pourtant c'est comme si vous aviez été jumeaux. Vous écrivez, Daniel Pénac, que vous avez perdu l'usage de votre corps, de votre propre corps à vous, après sa mort.
Oui, oui, c'est Oui, bon, ça, je m'y attendais évidemment pas. C'est-à-dire que mon esprit était ailleurs et mon corps abandonné. Donc il m'est arrivé des tas de trucs. Je me suis fait casser la gueule dans le métro. Je suis tombé d'une falaise. J'ai failli me faire écraser à Paris 36 fois par des voitures. J'ai eu moi-même un accident de voiture. Enfin bref, j'étais complètement dépossédé.
À Djibouti, vous êtes tombé dans une poubelle avec la maladie. Vous avez...
Ça c'était très... Quand on était gosse, oui. J'étais nul à l'école et Bernard me disait, écoute, tu es pour rien, c'est à cause de la poubelle de Djibouti. Parce qu'à 5 ans, je m'étais cassé la figure dans la poubelle de Djibouti. C'est dégueulasse, hein. C'est 60 degrés soleil avec des tas de choses qui mijotaient là-dedans.
Mais la pénicilline vous a sauvé.
J'ai attrapé une septicémie et j'étais sauvé par la pénicilline et l'amour et l'humour de Bernard.
Daniel Pénac, à la maison, ça se passait bien quand vous étiez enfant, mais à l'école, c'était plus compliqué. Vous l'avez écrit il y a 10 ans dans un livre Chagrin d'école. Qu'est-ce qui était compliqué à l'école pour vous, Daniel Pénac?
Eh bien, figurez-vous que j'en sais rien. Le désastre a duré très longtemps. Moi, j'ai passé mon bac à 20 ans résolu, avec une sorte de complexe d'infériorité intellectuelle, quelque chose. J'étais l'interrogation adulte. Qui déjà à l'époque n'était d'ailleurs, on cherchait essentiellement à vous évaluer, me terrorisait absolument. Alors par exemple, les leçons que je récitais à mon frère bien-aimé, je les savais quand je les ai récitées. Le lendemain, je me retrouvais devant un prof qui n'était pas particulièrement bienveillant. Là, j'étais absolument paralysé. Paralysé.
L'école, c'est la première expérience sociale?
Ça a été la première expérience sociale et en l'occurrence désastreuse.
On répète chaque année que le niveau des élèves est en baisse en France, la baisse du niveau français par rapport aux élèves du monde. Or ça, vous l'entendez depuis que vous étiez prof dans les années 70. Quel crédit donnez-vous à ces études qui se succèdent pour dire que le niveau baisse?
Mais le niveau baisse, c'est une notion. Le niveau est une notion absolument relative. Et dans les années 69, quand je suis rentré dans mon premier établissement, j'entendais déjà ça. Ils ne lisent plus en 69. Ils ne lisent plus. Et la deuxième phrase, c'était le niveau baisse. Alors je disais à mes collègues, mais non, le niveau est une notion relative. Si vous avez le sentiment que le niveau de nos élèves baisse, c'est probablement que le nôtre monte. On est des profs, d'excellents profs. Nous sommes de mieux en mieux. Ça ne plaisait pas beaucoup ce que je disais, mais c'est vrai, il y a une lamentation en fait. Nous sommes quand même un pays où nous nous lamentons beaucoup, ça. Bon, alors cela dit, il y a aussi des faits inquiétants, les rapports à la lecture, mais qui l'ont d'une certaine façon toujours été. Il y a, nous sommes une nation, oui, vous savez, de mauvais, je sais pas comment dire, de mauvaise humeur avec une tristesse de fond et surtout un désir de chercher des coupables, des responsables, de bouc émissariser les uns et les autres dans tous je regardais la revue de presse, dans tous les domaines, tout se passe comme si le but était de trouver un bouc émissaire. Bon, vis-à-vis des enfants et des adolescents, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'être des adultes de vrais, qui ont réellement le désir de la transmission. C'est aussi de lancer cette éducation européenne. Et par exemple, à l'école, il y a une chose très simple. Je rêve d'une école où chaque lycée, chaque collège, chaque école communale aurait, chaque école primaire aurait sa troupe de théâtre. Le théâtre, c'est un élément rassembleur, fédérateur de quantité de disciplines différentes. La littérature, bien sûr, mais il faut aussi se préoccuper de la musique, de l'électricité, des éclairages, des costumes, etc. Ça rassemble tous les gosses d'une école. Moi, je pense plutôt à l'avenir de l'école dans ce sens-là. Qu'est-ce qui peut fédérer les gosses? Le théâtre à l'intérieur de l'école et les gosses en Europe, par une véritable éducation européenne, c'est-à-dire de toutes les langues, de toutes les littératures.
En 69, vous étiez prof d'abord au collège, puis ensuite au lycée. Je vous posais une question sur des enfants bien plus jeunes. La réforme des bambins à l'école, dès 3 ans, obligatoire. Vous en pensez quoi ?
J'en pense qu'elle se faisait sans que ce soit obligatoire. Les gosses rentraient déjà à l'école. Alors, évidemment, le fait que ce soit officialisé, institutionnel, ça, on se dit, mais attends, mais où est l'enfance? Que reste-t-il de l'enfance si dès 3 ans, il faut passer sous le carcan?
Pas la peine de rendre ça obligatoire.
C'est pas la peine. Oui, d'autant plus que c'était dans les faits. Et encore une fois, les pauvres petits, ça dépend essentiellement des adultes qu'ils vont rencontrer.
Je vais vous poser une dernière question, peut-être un peu grande, et vous n'avez que malheureusement qu'une minute pour y répondre. C'est la question que vous avez posée un jour à votre mère, qui lisait peu, mais ce jour-là, vous l'avez trouvée avec un livre dans les mains, et vous lui avez posé cette question. Pourquoi lis-tu? Daniel Pénac, pourquoi lit-on?
Paradoxalement, pour nous incarner. Pour nous incarner, pour être vraiment présent au monde. C'est un drôle de truc, la lecture, parce que ça vous fait à la fois voyager, sortir de vous-même, et en même temps vous pousser des racines profondes. C'est quand même, on a un besoin de sens. Et puis, la lecture, ça regarde l'humanité entière depuis ses commencements. C'est-à-dire, pas d'autre façon d'entrer en relation avec tout ce qu'ont vécu ceux qui nous précédaient que le livre.
Eh bien, merci d'être venu le dire ici, Daniel Pénac. Je rappelle le titre de votre dernier livre, « Mon frère ». Et c'est un livre d'amour, on a bien compris. Et ça vient de paraître aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, Daniel Pénac.
Merci à vous.
Et bonne journée.